mais nous savons que toi, tu es la puissance, que toi, tu es la perfection, que ton esprit nous saisit, nous donne la grâce pour parler et saisit cette assemblée, donnant la grâce aussi pour recevoir. Qu'au sein même de nos corps d'infirmité, nous puissions ressentir que cette parole est vivifiante, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, que nous soyons atteints jusque dans la moelle de nos os et qu'ainsi nous trouvions dans cette parole une force nouvelle et que nous éprouvions non pas que ta parole nous tue, mais que ta parole nous fait vivre. Que nous ayons ce matin de la joie en cette parole, comme des hommes et des femmes qui trouvent un grand butin. Et que ce soit pour nous une nourriture spirituelle, dépassant le simple lait de l'enfance, mais devenant de la viande, capable de faire de nous des hommes et des femmes atteignant la pleine mesure de la stature même du Christ. Exauce-nous et dépasse notre attente pour la seule gloire de Jésus et de Jésus seul. Amen. Mes amis, en cette matinée du 16 août 1980, nous avons pensé qu'il serait utile de vous présenter une étude, comme nous vous le disions au petit déjeuner, rétrospective et en même temps prospective. Sur le thème de ce qu'ont les droits du Fils de l'homme, et en particulier sur l'épître aux Hébreux que nous avons commencé d'étudier et que nous achèverons, si Dieu nous le permet, à la fin de cette deuxième période du temps. Samedi dernier, au matin du 9 août, dans notre introduction générale, nous vous avons dit à vous qui étiez là, et nous le redisons pour ceux qui viennent d'arriver, ce qui nous avait conduit cette année à prendre pour thème les droits du Fils de l'homme. L'année dernière, et à notre époque même, vous le savez, de grands hommes dans ce monde, tant politiques que religieux, ont constamment les droits de l'homme dans la bouche. On en parle à l'ONU, le pape Jean-Paul II, dans tous ses voyages, ses mentions de ces droits de l'homme qui ne devraient pas être violés, ceux qui prennent la parole à l'ONU à New York font la même chose, et pourtant nous devons avouer que jamais encore ces droits de l'homme ont été autant violés, autant bafoués, même par ceux qui signèrent les accords d'Helsinki qui reconnaissaient ces droits de l'homme. Et samedi dernier, nous avons simplement rappelé quelle était l'origine de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Le 9 juillet 1789, en France, les États généraux, sous le nom d'Assemblée constituante, définissaient la charte des droits de l'homme. Elle établissait un ensemble de règles régissant les rapports des hommes constituant une même société. Et je me permets aujourd'hui de rappeler également la définition habituelle d'un droit. C'est la faculté de faire un acte, de jouir d'une chose, d'en disposer et d'exiger quelque chose d'une autre personne. Mais, à vrai dire, ces droits de l'homme avaient été proclamés bien avant la Révolution française, bien avant les accords de la Société des Nations, qui, vous le savez, fit faillite lors de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle avait son siège en Suisse, à Genève, société qui ressuscita à la fin de cette Deuxième Guerre, sous un autre nom, l'Organisation des Nations Unies, avec son siège non plus à Genève, quoique les bâtiments de la Société des Nations abrite une partie de l'ONU, mais à New York. Et cette organisation, comme le disait Charles de Gaulle, c'est l'Organisation des Nations dites unies. Ces droits, Dieu, disions-nous, les avait proclamés à quel endroit ? Au Sinaï, au jour de Moïse, en soulignant non pas seulement les droits de l'homme, mais d'abord ses droits à lui, le créateur de l'homme. La première table de la loi souligne d'abord les droits de Dieu. La seconde table que reçut Moïse, écrite du doigt de Dieu, rappelait les droits de l'homme, créé à l'image de Dieu. Et vous le savez aussi bien que moi, ces 10 commandements de Moïse sont à la base de presque tous les codes civils des nations de ce monde. Même des nations qui ne sont ni juives ni chrétiennes. On s'est inspiré partout des 10 commandements de la loi donnée par Moïse. Est-ce qu'il y en a encore qui savent ces 10 commandements par cœur, parmi vous? Oh, je m'en vais pas, je n'ai nulle envie de vous faire passer un examen, mais enfin, je veux croire que vous me suivez, et que vous avez quand même quelques vagues souvenirs d'un catéchisme que vous auriez pu faire autrefois dans votre enfance, où l'on vous a appris les 10 commandements. Malheureusement, en ce temps-là, dans certains catéchismes, il y avait bien 10 commandements, mais on en avait supprimé un, et on en avait dédoublé un autre, pour que ça fasse quand même 10. Aujourd'hui, que la Bible est répandue dans tous les foyers, les 10 commandements s'y trouvent. Et dans les catéchismes qui ont suivi Vatican II, le deuxième commandement, même s'il n'est pas suivi dans certaines églises, est quand même là, après un seul Dieu tu adoreras ou tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement était, tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle, que ce soit une icône ou que ce soit une statue. C'est le commandement du Seigneur. Mais le Seigneur doit se contenter d'une fidélité bien approximative dans ce qui s'appelle l'Église. Hélas. Trois fois hélas. Mais je dirais aussi qu'il y a une foule de gens qui sont détachés de l'Église romaine, qui ne se prosternent pas devant des statues extérieures, mais qui brûlent de l'encens aux idoles secrètes qui se dressent dans leur cœur. De sorte qu'il ne faut pas traiter les autres d'idolâtres quand on l'est peut-être soi-même. Les idoles, les statues, bien souvent, elles sont cachées dans nos vies, elles sont dans nos cœurs, et le Seigneur les voit. Et elles sont peut-être plus dangereuses encore que toutes les statues de plâtre, de bois, d'argent ou d'or qui se trouvent dans certains sanctuaires et qui sont peut-être des œuvres d'art, que je puis admirer comme œuvre d'art, mais devant lesquelles jamais, au grand jamais, je ne me prosternerai et que je ne saurai baiser, même si c'est l'orteil de notre cher Saint-Pierre, usé presque jusqu'au trognon. Je l'ai vu, et j'ai même vu une bonne petite sœur en 1939, et qui n'avait pas des chasses parce qu'elle était née un peu trop courte, et qui essayait d'arriver à l'orteil de Saint-Pierre en se hissant. Je pensais à Cathy qui nous fait nous lever, et que j'essaierai de vous faire tout à l'heure, puis elle essayait comme si elle allait au sein de sa mère, hein, pour attraper l'orteil et le baiser. Vous savez, je ne dis pas cela pour me moquer, mais ça me fait mal. Ça vous fait mal de voir que l'on laisse les gens dans l'ignorance, que l'on laisse les gens dans cet aveuglement. C'est qu'on ne fait rien, non, le peuple, il faut bien ça pour le peuple. C'est la phrase d'Aaron. Quand le peuple d'Israël, ne voyant pas redescendre Moïse de la montagne, à ce moment-là, le peuple vient trouver Aaron, ils disent, cet homme Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, fais-nous un veau pour que nous puissions célébrer notre délivrance de l'Égypte. Et Aaron a dit, eh bien, apportez-moi votre or, vos pendants d'oreilles, vos anneaux d'or, tout ce que vous avez comme or. Et il a fondu tout cela, et il a fait le veau d'or. Et il a dit, demain, une fête à l'Éternel. Vous prenez l'Éternel pour un veau. Eh bien, Aaron, le sacrificateur, a fait cela pendant que Moïse était sur la montagne, recevant la loi de Dieu. Aussi, vous vous souvenez de la colère de Moïse quand il est rentré avec Josué et qu'ils ont entendu ces cris de joie, de danse, un peuple en fête, dansant devant le veau d'or. Moïse a été saisi de la colère divine et il a fracassé les tables qu'il avait reçues de Dieu lui-même, où Dieu avait écrit de son doigt, puisque les hommes voulaient savoir ce qui était bien et ce qui était mal, ce qu'ils devaient être fait par l'homme, eh bien, moi, il fracasse ses tables. L'alliance est brisée avant qu'elle soit conclue. C'est terrible. Et alors, quand il va vers son frère Aaron, il lui dit, mais comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Vous savez ce qu'Aaron dit? Le peuple a demandé, tu sais bien que le peuple est constamment dans le péché. Mais si le peuple est constamment dans le péché, que ferez-vous pour le sortir du péché? Est-ce que vous l'enfoncerez encore davantage pour mieux dominer sur lui? Est-ce que vous le laisserez dans sa noirceur au lieu d'essayer de dissiper les ténèbres? Il est temps, frères et sœurs, que Jésus-Christ soit glorifié. C'est l'heure qu'il soit glorifié. Et qu'il soit glorifié par vous qui aurez entendu sa parole et qu'il aurait reçu. Ça ne peut plus continuer ainsi dans ce monde. Il faut que des hommes et des femmes, dans tous les milieux, se lèvent pour attester qu'ils veulent suivre l'Écriture et non pas des préceptes humains, quelle que soit la hiérarchie et ce qui se trouve au sommet, qui leur édicte ces lois ecclésiales ou ecclésiastiques. Ce que nous voulons revenir ensemble, que nous soyons nés dans le catholicisme, ou dans une congrégation quelconque du protestantisme, ou dans une église orthodoxe. Nous savons qu'il y a des vrais croyants dans tous ces milieux. Nous savons qu'il y en a qui souffrent atrocement dans les communautés qui les ont vus naître, de ces infidélités, parce qu'ils ont pu contrôler par l'Écriture que l'on s'était écarté de ce qui était dès le commencement. Alors, c'est à vous, mes frères, mes sœurs, quelle que soit votre étiquette religieuse, d'être sensible à la parole de Dieu et d'en vivre et de la faire vivre autour de vous. Il se peut que cette attitude vous attire de la haine. Il se peut qu'on vous traite de fanatiste, d'iconoclaste, et que sais-je encore, peu importe. Ceux qui veulent vivre pieusement d'une vraie piété aujourd'hui, il faut qu'ils s'attendent à être honorés, persécutés. Jésus lui-même a osé dire la vérité au conducteur spirituel de son peuple. Qui donc a condamné Jésus? Le chef spirituel de son peuple, le souverain sacrificateur, dans un grand geste, il déchire sa robe et il dit devant tout le Sanhédrin qui était le tribunal juif de cette époque, il a blasphémé. Que vous ensemble, il mérite la mort. Vous êtes fatigué? Non. Pas encore? Bon, vrai signe. Pour donner un fond biblique à ce thème, non pas les droits de l'homme, mais vous avez compris, les droits du fils de l'homme. Parce qu'on était tanné d'entendre toujours parler des droits de l'homme. Et nous voulions souligner que ce qui est plus important que les droits de l'homme, c'est les droits de Dieu. Car ce fils de l'homme, non, qu'aimait à se donner Jésus, c'était le nom de Dieu, qui soulignait sa divinité. Et tant de conditions divines, voulant racheter l'humanité, il a consenti à devenir fils de l'homme, à revêtir notre humanité et apparaître ici-bas comme un homme afin de racheter tous les hommes et de les introduire auprès de notre Père des cieux. Alors, pour donner un fond biblique à ce thème du camp, les droits du Fils de l'homme, nous avons été conduits à choisir l'Épître aux Hébreux pour former nos pensées. Cet Épître a été reçu dans ce qu'on appelle le canon, la règle du Nouveau Testament. Elle a été reçue dans l'Église primitive comme un écrit inspiré de Dieu. Et toutes les églises reconnaissent cela, que nous soyons catholiques ou protestants ou orthodoxes. Cet épître a été reçu dans le Nouveau Testament comme les évangiles, comme les actes des apôtres, comme les épîtres de Paul, de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude, et comme l'Apocalypse. Ces 27 livres qui forment le Nouveau Testament. Donc on n'allait pas chercher l'Épître aux Hébreux dans l'Ancien Testament. Parce que vous savez, c'est très bizarre l'ignorance dans laquelle se trouvent pas seulement les gens du Québec, mais les baptisés du monde entier concernant les Écritures. Quand je m'en vais diriger un pèlerinage biblique en Israël, je donne toujours une Bible à tous ceux qui nous accompagnent. Mais au cours de pèlerinages œcuméniques, j'ai été souvent surpris de voir même des prêtres qui ne savaient pas où se trouvait tel ou tel livre, de sorte qu'on est tombé d'accord de donner la même version, la même pagination à tous les participants d'un groupe, et nous disions simplement, nous allons lire dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, page 392. Alors, tout le monde y était, mais si on avait dit simplement dans le livre des rois, où est-ce qu'il est ? N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on essaye d'aider les gens. Vous connaissez qu'il y a un certain nombre d'épîtres de Paul, et quand on dit nous allons lire dans les Éphésiens, ça vient avant quoi, puis ça vient après quoi ? Alors, pour aider le monde à se souvenir de la position des épîtres, on leur fait apprendre simplement ceci. Rococo, galéfico, tétété, tititi. Alors vous y êtes. Romains, Corinthiens, il y en a deux, alors ça fait coco. Après c'est Galate, Gal, puis après c'est Éphésien, puis après c'est Philippiens, Ephi, puis après c'est Colossiens, Ephico, et puis après, il y a deux épîtres aux Thessaloniciens, alors ça fait Tété, et puis ensuite, vous avez deux épîtres à Timothée, une épître à Tite, et l'épître à Philémon, qui finissent les épîtres signés par Paul, alors ça fait Tititi-Ti. Rococo Galetico, Tété, Tititi-Ti. Alors, ça va très vite, n'est-ce pas? Vous allez encore plus vite et vous penserez avoir reçu le don des langues. Et peut-être que si un jour vous dites ça au toit, on dira, tiens, gloire à Dieu. En tout cas, si vous pouvez déjà dire ça, eh bien, ça vous aidera drôlement à trouver les Écritures et à ne pas nager. Maintenant aussi, on a des moyens de vous faire apprendre comment se trouve, comment vous y retrouvez dans l'Ancien Testament où il y a 39 livres reçus comme inspirés et puis une dizaine de livres qu'on appelle les deutérocanoniques ou les apocryphes,
ceux qui n'avaient pas été reçus dans le canon, c'est-à-dire dans la règle que la synagogue appliquait aux livres pour reconnaître s'ils étaient inspirés ou pas. Ce sont des livres qui ont une valeur historique, mais où il y a des récits légendaires. C'est pourquoi on les a mis dans la TOB, traduction œcuménique, à la fin de l'Ancien Testament. Alors, mes amis, l'épître aux Hébreux a été choisie. Et pourquoi? Parce que, quand vous lisez cette épître, vous découvrez la gloire de notre Seigneur, exposée d'une façon magistrale. Et cette gloire nous apparaît comme un des trésors les plus précieux de la Bible. On a pu appeler l'épître aux Hébreux, est-ce que vous vous en souvenez, vous qui avez participé à ces études, le cinquième évangile concernant le Nouveau Testament, parce qu'on a aussi appelé cinquième évangile le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, parce que avec tout ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, 700 ans environ avant la naissance du Seigneur, on pourrait écrire même, d'une façon très précise, une vie de Jésus venant dans l'humiliation et pour régler la question du péché. Et je dirais que l'intérêt de l'Épître aux Hébreux, c'est que pour ceux qui ont lu les quatre évangiles, vous les connaissez alors dans leur ordre, hein, ça commence par Jean. Non. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Hein, voilà les quatre évangiles, qui ne sont pas les répétitions des mêmes faits, mais comme quatre portraits de la même personne, mais pris dans des poses différentes. Ou alors, on aperçoit quelques détails de la personnalité du Christ que ne souligne pas avec autant de force un autre évangile. De sorte que c'est une richesse pour nous de lire les quatre évangiles et d'y découvrir les traits adorables de Jésus. Mais dans les évangiles, nous avons le récit de la naissance du Seigneur, son ministère sur la terre. Nous apprenons à connaître ses paroles. Nous avons une description de son arrestation, de sa mort, de sa résurrection, et ça va jusqu'à son élévation dans la gloire, mais après, dans les évangiles, il n'est pas dit ce qu'il fait. Et alors, c'est dans l'Épître aux Hébreux, c'est pour ça qu'on l'a appelé le cinquième évangile, que nous apprenons ce que Jésus fait dans le ciel. Ce qu'est le ciel, quel est son travail à l'heure actuelle dans le ciel. Et c'est pourquoi on a pu dire aussi que l'Épître aux Hébreux, c'était l'Épître des cieux ouverts ou le voile déchiré. C'est extraordinairement beau de contempler dans l'Épître aux Hébreux cette porte du ciel et de voir Jésus dans la gloire, assis sur son trône à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine, au-dessus de toutes les puissances et de toutes les autorités. Alors je vous demande, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu l'Épître aux Hébreux en entier? Pas de l'Épître aux Hébreux, parce que je me rends compte que bien souvent les gens ont lu de la Bible, mais ils n'ont jamais lu la Bible. Et aujourd'hui, trop souvent encore, on fait ce système, on a la Bible partout, et quand ça va mal, on essaye de l'ouvrir avec une petite prière avant, et puis de piquer un verset, et alors on pense que comme cela, on va être aidé. Mais ce n'est pas connaître la Bible, ça peut peut-être vous aider un jour, mais aussi, ça peut peut-être ne pas du tout correspondre à votre besoin. Alors vous fermez la Bible, puis vous recommencez le manège, et puis vous vous arrêtez quand vous avez trouvé un bon verset, comme s'il y avait des bons et des mauvais versets. Il faut, pour avoir une connaissance biblique, lire la Bible depuis la première page à la dernière, la relire, et la relire encore, s'en imprégner l'esprit, et alors, le Saint-Esprit qui devient notre mémoire, nous rappelle au moment opportun un texte de l'Écriture qui peut être pour nous une consolation, qui peut être pour nous un encouragement, une exhortation ou un prends-garde. Voilà ce que l'Esprit fait quand la parole est dans notre cœur. Et si ces paroles sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez pas oisifs ni stériles quant à ce qui regarde la connaissance de Dieu, et vous saurez que dire à votre prochain, le Saint-Esprit vous rappelant une parole qui sera comme une pomme d'or incrustée d'argent, la parole dite à propos, dont cette âme à qui vous avez parlé se souviendra toujours. Il y a 3 ans, j'étais avec le père Roginbal en France, et il y avait peut-être 1800 personnes pendant 10 jours pour écouter les conférences, et je vois un homme qui me dit, vous vous rappelez de moi? Je vous ai vu il y a 40 ans. 40 ans, vous savez, ça change les visages, hein, 40 ans. Et vous m'aviez dit ceci, est-ce que vous vous souvenez? Comment voulez-vous que je me souvienne? Mais lui s'en souvenait, n'est-ce pas? Et cela arrive très souvent, une autre personne arrive, puis me dit, il m'appelle Gaston, il me dit, tu te souviens de moi? J'étais un athée, j'étais à l'aise, malade, mourant, tuberculeux, tu es venu me visiter. Eh bien, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné, il me présente sa femme, ses enfants. Et il me dit, c'est grâce à l'instruction que tu m'as donnée que ma fille est mariée avec telle personne qui faisait partie des hautes sphères de l'enseignement à Paris et qu'elle est très heureuse parce que tous ont la foi. C'est quand même assez extraordinaire. Un autre, toujours à Paris, parce que je me suis beaucoup occupé de ces gens quand ils étaient malades et qu'ils étaient revenus la prison en Allemagne pendant la guerre, ils étaient tuberculeux et la plupart étaient des communistes ou des athées, et le Seigneur m'avait mis à cœur ces gens-là. Je n'ai jamais eu la pensée de faire changer les gens de religion, ni d'apporter une religion, mais d'apporter un sauveur à ceux qui sont dans la détresse. Et alors, voilà, cet homme aussi, qui est à Paris maintenant, et qui vient un jour que je prêchais dans une salle parisienne, et qui se présente, puis me dit, ben, je suis un tel, et tu te souviens de moi, dans les sanats de les uns, et bien voilà, me voici avec 20 personnes qui me présentent, qu'il a amené lui-même au Seigneur. Alors, vous voyez, je ne fais jamais de statistiques. Je ne sais jamais quels sont les résultats d'une conférence, puisque je ne vais pas gratter immédiatement après avoir semé, et c'est des années et des années après que l'on voit que quand même, la semence est tombée, comme tu nous l'as lu, Pauline, encore une fois, dans ce bon terrain où le Seigneur nous montre qu'il sème la parole. C'est pas toujours sur le chemin que le grain tombe, c'est pas toujours dans des endroits rocailleux, ce n'est pas toujours dans les épines, c'est aussi dans la bonne terre. Et l'un rapporte 30, l'autre 60 et l'autre 100. Alors, soyons des semeurs de la parole, mais semons avec intelligence, semons avec foi. Ne pensons pas du tout, si nous sommes semeurs, que nous allons récolter, ce serait stupide. Il y en a un autre qui récoltera le moissonneur. Mais ce n'est pas nécessairement le semeur. Et quelquefois, je dois constater que je récolte ou je n'ai pas semé, et puis d'autres fois, j'en vois d'autres qui récoltent ou j'ai semé. Mais il n'y a pas de jalousie, le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Mais qui a fait l'œuvre? Qui a donné l'accroissement? Qui a fait germer la semence? c'est Dieu. Alors, vous savez, ça nous libère de toute déception et aussi de tout découragement si on ne voit pas du fruit immédiat. Et puis aussi, ça nous empêche de nous gonfler. Et, il faut rentrer son ventre. Eh bien, ça nous empêche de nous gonfler si nous voyons que nous avons quelques succès. Toute gloire est au Seigneur. Mais n'allez jamais, comme on rappelait une phrase que j'ai dite une fois, demandez à la personne dont on vous a parlé après une de vos réunions, et puis on vous a dit, vous savez, à votre réunion, il y a madame un tel ou monsieur un tel qui s'est converti. Alors vous êtes très intéressé, puis vous êtes un peu curieux de voir le nouvel être qui va entrer dans l'arche de Noé, ou qui est entré, n'est-ce pas? Alors vous vous approchez, puis vous dites, alors madame ou monsieur, vous avez été touché dans ce que j'ai dit hier soir? Et vous prenez un ton bien pastoral, bien doctoral, n'est-ce pas? Et puis vous frottez les mains comme ça, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et puis la dame vous regarde, puis elle a l'air assez étrangère, elle n'est pas du tout sentimentale, elle vous tombe pas dans les bras pour vous remercier. Vous dites, oh mais vous savez, c'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez lu. Alors, ça remet bien les gens en place. Ce n'est pas l'éloquence du prédicateur, c'est la puissance de la parole de Dieu qui compte. Alors, mes amis, je ne sais pas si vous avez lu l'Épître aux Hébreux, mais en tout cas, vous allez la lire. Nos amis qui ont participé à ces premières journées l'ont lu jusqu'au chapitre 9 que nous allons vous lire dans un instant, mais ils ont lu verset après verset et ils l'ont étudié verset par verset. Nous avions juste donné quelques grandes lignes lors de l'introduction pour que tous puisse être aidé. Quand on reçoit une lettre, habituellement on regarde la date, eh bien il semblerait que c'est dans les années 67 environ après Jésus-Christ, mais avant la destruction du temple de Jérusalem, qui eut lieu en quelle année? En 70, n'est-ce pas, que la lettre aurait été écrite. Maintenant, qui était l'auteur de cette lettre? Tous les écrits de Paul sont signés et commencent Paul, apôtre de Jésus-Christ, et il nomme souvent ses compagnons, et on s'aperçoit que l'Épître aux Hébreux est une lettre anonyme. Je dis cela pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Alors on a fait beaucoup de suppositions, parce que quand vous recevez une lettre anonyme, la première chose qui se passe dans votre cœur, vous voulez savoir qui a fait ce tour. Eh bien, c'est pas un mauvais tour. Si l'Épître aux Hébreux est anonyme, parce qu'elle exalte justement la gloire de Dieu, elle ne dit que du bien du Seigneur Jésus, et puis elle en dit tellement qu'on se dirait, mais celui qui a écrit ça, hein, c'est un génie. Alors il ne l'a pas signé, pour qu'on ne pense qu'une chose, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné de telles vérités. C'est beau cela alors, hein? Si on ne signe pas quelque chose, c'est uniquement pour que la gloire ne nous revienne pas. Alors on a cru que c'était Paul quand même, d'autres Apollos, d'autres Luc, le médecin bien-aimé, d'autres un compagnon de Paul, Aquilas, le mari de la chère Priscilla, et puis d'autres encore, Silas, qui avait été emprisonné avec Paul dans la ville de Philippe de Macédoine. Peu importe, ce que nous soulignons, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné. Et que s'il n'est pas parlé d'un apôtre, il en est quand même question, qui est le vrai apôtre, qui veut dire l'envoyé, c'est Jésus-Christ. L'apôtre de notre confession, lisons-nous au chapitre 3, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est une lettre où nous trouvons une des révélations les plus profondes qu'on puisse découvrir dans la Bible concernant le plan de la rédemption et la gloire du Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur. Maintenant, on se dit, mais qui sont les destinataires? C'était des chrétiens, sorti du judaïsme, mais qui était donc descendant d'Abraham. D'Abraham qu'on appelait l'Hébreu, Genèse 14, 13. L'Épître aux Hébreux, c'est une lettre écrite à des convertis du judaïsme, à des croyants, donc, juifs, qui avaient adhéré à la doctrine chrétienne, mais qui, au moment où la lettre leur fut envoyée, étaient en danger de se décourager et de retourner en arrière à l'ancien état de choses, de redevenir, en quelque sorte, juifs, de se remettre sous toutes les cérémonies de ce qu'on appelait l'ancienne alliance. Pour quelle raison? Mais parce que les promesses de la venue de Jésus, de la venue du Seigneur, de son retour, de ce Messie qui avait été rejeté, eh bien, elles tardaient à s'accomplir. Ces Juifs convertis dans cette voie nouvelle dans laquelle ils s'étaient engagés et qu'on traitait de secte, avaient à souffrir la persécution de gens de leur propre famille, de sorte qu'il se disait, à quoi bon? Pourquoi ne pas revenir à notre synagogue? Pourquoi rester séparés? Et ils avaient cette tendance à revenir en arrière. Mais au fond, la vraie raison de tout cela, de cette crise par laquelle passaient ces gens-là, c'était qu'ils avaient abandonné leur premier amour pour le Seigneur Jésus, et ils étaient devenus des tièdes. Ils s'arrêtaient, ils s'étaient arrêtés dans leur marche, hein, et même ils reculaient. Car je voudrais bien souligner ceci, c'est que dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas, recule. Il n'y a pas d'état stationnaire. Vous ne pouvez pas rester dans un état stationnaire dans la vie spirituelle. Celui qui n'avance pas, recule. Alors, si vous vous êtes arrêté, demandez au Seigneur qu'il vous réveille, qu'il vous saisisse par la main et qu'il vous attire dans le chemin pour continuer la course. Et si vous êtes trop las et trop fatigué, savez-vous ce qu'il fera? Il sortira un couteau et puis vous égorgera. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de continuer. C'est ça? Est-ce que le Seigneur est un boucher? Le Seigneur est un berger. Alors, ça commence par la même lettre. Hein. Mais il y a des bergers qui sont des fois des bouchers. Alors, hélas. Mais le Seigneur, il est le bon berger. Brebis fatiguée? Bien, je te prendrai sur mes propres épaules. Je te conduirai à la maison. Vous allez vous laisser porter. Pourquoi est-ce que vous ne vous laissiez pas porter? Vous avez un berger. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, la blessée, je la panserai, et la malade, je la fortifierai, il la portera. Ayez confiance dans votre bon berger. Il est le souverain berger, le pasteur unique des brebis. Alors, il fallait qu'une parole les réveille, et c'est pourquoi l'auteur anonyme de cette lettre a adressé ce message à ces gens-là, qui formaient peut-être une communauté, mais qui pouvaient aussi très bien être des individus dispersés dans la diaspora juive, ou alors se réunissant dans une maison quelconque de Jérusalem. Il fallait que ces gens découvrent ce qu'était le grand salut de Dieu, qui n'était pas une doctrine concernant le Seigneur, mais qui était la personne même du Seigneur, le grand salut de Dieu. Ce n'était donc pas un ensemble de dogmes, de rites, de cérémonies qu'on réciterait, qu'on célébrerait dans certains lieux, mais une communion, une relation avec un être habitant le ciel, habitant dans le ciel et en même temps dans nos cœurs. De sorte qu'il y a une relation entre le ciel et nos cœurs. nous avons souligné que le sujet de l'épître, c'était donc la connaissance du Fils de Dieu. Et là, je parle comme Jean-Paul II, en toute humilité. Qu'a-t-il dit au stade des princes à Paris, quand des jeunes lui ont posé la question lors de son voyage? On lui a demandé que diriez-vous à la jeunesse, quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse? Vous savez ce qu'il a dit? Apprenez à connaître le Seigneur. Ben, c'est une parole que je puis redire, hein, si c'est ça. Mais apprenez à connaître le Seigneur, qu'est-ce que c'est apprendre à connaître le Seigneur? Quel Seigneur? Où est-il révélé? Pas dans mon imagination, pas dans des livres de théologie, mais dans la Bible, dans l'Écriture sainte, qui est le grand livre aussi bien de l'Église catholique que de toutes les autres églises qui se disent chrétiennes. De sorte que n'ayez plus peur de lire la Bible, mais apprenez à connaître le Seigneur qui vous est révélé dans sa parole. Vous ne pourrez pas, il n'y aura pas de miracle, vous n'aurez pas une vision, vous n'aurez pas une révélation, le Seigneur se révèle dans sa parole. Et si vous lisez sa parole, vous découvrirez, comme le chante Littleton, qui est un de mes amis, le visage du Seigneur. Vous le découvrirez, ce visage, dans l'Écriture sainte. Le sujet de cette épître, c'est la connaissance du Fils de Dieu, la prééminence du Christ sur toute chose, sur tous les hommes, sur toutes les institutions, contenues dans l'ancienne alliance faite pour les Juifs, dans la loi et dans les prophètes. Et alors, le plan du livre, eh bien, nous vous avons montré qu'il y avait deux parties. La première partie, qui est une partie doctrinale, et qui va du chapitre 1 au chapitre 10, verset 18, où nous voyons le Fils de Dieu, médiateur d'une meilleure alliance que l'ancienne, la sacrificature souveraine de Jésus-Christ s'exerçant maintenant où? Dans le ciel. Puis, nous avons une deuxième partie pratique qui commence au chapitre 10 à partir du verset 19, et qui va jusqu'à la fin, c'est-à-dire au chapitre 13, verset 24e. Et cette deuxième partie, qui sera l'objet de nos études dans la semaine qui vient, eh bien, nous parlera de ce qu'est une vie vécue en harmonie avec la gloire de Dieu révélée dans son Fils. C'est cela qui sera merveilleux. Qu'est-ce qu'une vie vécue, maintenant qu'on a la doctrine, qu'est-ce que c'est qu'une vie vécue sur la terre en harmonie avec la gloire de Dieu qui nous a été révélée dans le Fils? Et dans ces premières journées du camp, nous avons étudié en atelier, par petits groupes de 7 ou 8 personnes, les 8 premiers chapitres de cette épître. Ces ateliers d'une demi-heure était suivi d'une plénière à la fin de laquelle nous apportions une conclusion. Alors aujourd'hui, nous allons considérer le chapitre 9 et demain au culte, la première partie du chapitre 10 qui forme la fin de l'exposé doctrinal. Et dès lundi jusqu'au vendredi, Dieu voulant, nous reprendrons nos études en atelier. Nous en aurons 5 d'atelier jusqu'à vendredi. Et samedi, si nous l'atteignons, j'apporterai, Dieu voulant, une conclusion en vous rappelant 5 grands avertissements que vous trouvez dans l'épître aux Hébreux. Stop, stop, stop. Hein? On s'arrête et puis on chante. Vous... Voyez-vous, mes amis, un simple regard sur les chapitres étudiés vous permettra d'entrer de plein pied dans nos études. Au chapitre 1er, mais il faudrait que vous le lisiez, hein, vous verrez que Dieu a parlé, et qu'il a parlé autrefois par les prophètes, de différentes manières, mais quand ces jours qui sont les derniers, il a parlé dans le Fils. Il a parlé dans son Fils. Il a dit que Dieu était en Christ, et quand Jésus parlait, on pouvait entendre la voix de qui? La voix de Dieu. Les paroles que Jésus disait, c'était les paroles de Dieu. Il dit lui-même qu'il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père, comme aussi il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Et alors, dans ce chapitre premier, vous verrez le Fils présenté comme supérieur, et aux prophètes qui avaient parlé avant lui, et aux anges, supérieurs aux anges, dans sa divinité. Au chapitre 2, vous verrez le Fils supérieur aux anges dans son humanité même. L'Esprit de Dieu revendique la divinité essentielle du Christ, dans les circonstances où l'on pourrait justement penser que sa divinité serait méconnue, anéantie en apparence par les circonstances mêmes que Jésus traversait. Qu'il soit présenté comme petit enfant engendré aujourd'hui ou comme retranché à la moitié de ses jours, selon le psaume 102, qu'il soit présenté dans sa condition la plus humble, comme le pauvre, la plus abaissée, quand il est au rang des iniques, parce qu'il a été mis au rang des iniques, des malfaiteurs, Ésaïe 53, ou lorsqu'il rend son esprit sur la croix, dans toutes ces circonstances, Dieu apporte un soin jaloux à revendiquer la gloire divine de Jésus, qui est l'homme Dieu. Comprenez-vous ? C'est l'humanité et la divinité de Jésus qui coexistent constamment dans l'Épître aux Hébreux. Tout ce qui nous est présenté au sujet de Jésus est dit de lui comme homme sur la terre. Il est le Fils de l'homme. Mais cela n'est vrai que d'une personne qui est en même temps Dieu. Tout ce qui est dit de Jésus l'est dit en tant qu'homme. Il a été homme réellement. Hein. Mais cela n'est vrai que pour quelqu'un qui est Dieu. Ce n'est pas vrai pour un autre homme. Le chapitre 3 nous montre le Christ alors supérieur à Moïse, ce qui vous ramène dans l'Ancien Testament. Le chapitre 4 vous montre Jésus supérieur au successeur de Moïse qui était, Josué, Aaron était son frère de Moïse, mais le successeur qui a fait entrer le peuple dans le pays de Canaan, c'était Josué, un général, un militaire. Et puis au chapitre 5, alors nous voyons le Christ supérieur à Aaron, comme tu l'as mentionné, et devenant notre souverain sacrificateur. Au chapitre 6, nous sommes exhortés à dépasser les premiers éléments de la parole du Christ et appelés à saisir qu'avec Jésus, nous sommes placés devant un nouveau sacerdoce, celui de Melchisédek, cet homme mystérieux dont nous parle le chapitre 14 de la Genèse. Au chapitre 7, ce sacerdoce de Melchisédek nous est exposé et nous voyons que la conclusion est que Jésus a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de ce Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Au chapitre 8, nous trouvons alors le nouveau sanctuaire. Il nous est présenté un nouveau sanctuaire qui n'est pas un sanctuaire fait de pierre, qui n'est pas un sanctuaire terrestre, mais qui est un sanctuaire céleste. Et les grâces de la nouvelle alliance. Alors, au chapitre 9, que nous allons lire maintenant, nous allons découvrir l'efficacité du sang de Jésus pour nous ouvrir le nouveau sanctuaire et inaugurer la nouvelle alliance. Alors, nous avons nos Bibles, vous pouvez suivre, chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relative au culte est le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Qu'est-ce que c'est qu'un tabernacle? Non. C'est une demeure, c'est une tente, n'est-ce pas, un tabernacle? Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Il y avait donc combien de parties dans le tabernacle? Deux, n'est-ce pas, dans cette demeure, deux parties, qui étaient séparées par un grand voile. Hein. Et dans la seconde partie, donc, le Saint des Saints, on y trouvait l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Qu'est-ce que c'était la manne? La nourriture qu'Israël eut pendant 40 ans dans le désert. La verge d'Aaron, qu'est-ce qui lui était arrivé? Elle avait fleuri pour attester que c'était bien lui qui avait été choisi. On avait mis les jaloux qui disaient, mais autant moi qu'Aaron, eh bien portez vos verges. Hein? Puis vous savez ce que c'est qu'une verge? Était coupé là dans le désert, c'était probablement un morceau d'acacia, et puis on les a mis, c'est du bois mort en quelque sorte, hein, puisque c'est coupé. Puis le lendemain, la verge d'Aaron avait fleuri, il y avait un bourgeon. Et Dieu donnait à connaître que celui dont la verge avait fleuri, c'était lui qui avait été choisi. Alors on fermait la bouche aux jaloux qui voulaient prendre la place d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait fleuri, et qu'est-ce qu'il y avait encore dans l'arche? Les tables de l'Alliance. C'était quelles tables? Les tables de la loi, mais j'ai dit qu'elles avaient été brisées. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, Moïse est remonté, et Dieu lui a dit de tailler de nouveau deux tables sur lesquelles Dieu a écrit une nouvelle fois sa loi. Mais les premières tables, c'était Dieu lui-même qui les avait fournies. Les deuxièmes, c'est Moïse qui a dû les préparer. Hein? Vous avez bien des détails intéressants. Au-dessus de l'arche, c'est-à-dire le couvercle de l'arche, hein, étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Propitiatoire, c'était vraiment le couvercle. Et puis sur ce couvercle, il y avait deux chérubins en or. Des chérubins, ce sont des anges et qui servent le Seigneur. C'était une image de ces anges. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alors, ça me soulage. Vous pourrez, je vous en parlerai pas. Mais tu pourrais donner le petit livre, là, je voudrais le montrer, là. La maison d'or. Hein. Et pour ceux qui voudraient étudier le tabernacle, puisque ce n'est pas le moment d'en parler ici, mais qui seraient quand même intéressés, je voudrais vous recommander un petit livre qui n'est pas trop cher, mais qui pourrait vous donner une idée et des explications pour vous aider à lire dans l'Exode ce qu'est le tabernacle. Vous le demanderez à Françoise, même si ma femme n'arrive pas à le découvrir maintenant. Ça s'appelle la maison d'or. Oui, vous voyez, c'est ça, la maison d'or. C'est pas la maison où l'on dort, hein. La maison d'or, D'OR, hein. Comme Val d'Or. C'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses, vous êtes content. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Vous comprenez ce langage, hein? Et dans la seconde, seul le souverain sacrificateur entre, quand ça lui chante, une fois par an, non sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Il le prend où ce sang? Il se fait faire une saignée? Non. C'est le sang des animaux qui était offert en sacrifice à la place, qui mourait à la place des pécheurs, hein, des coupables.
Il y avait une question, quelqu'un avait demandé si le sacrificateur faisait le sacrifice dans ce lieu-là, le lieu chrétien.
Non, non, c'était à l'autel des holocaustes, en dehors, dans le parvis, et il prenait du sang et il y entrait avec le sang des victimes. Mais ça ne se faisait pas à l'intérieur du Saint-Saint. Il serait mort. Parce qu'il fallait respecter exactement les règles que Dieu avait données. Vous voyez que même faire fumer un encens qui n'avait pas été préparé selon les prescriptions du Seigneur, qu'est-ce que ça faisait? Il mourait. Et qui que vous soyez, et c'était des grands, hein, c'était les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, se sont permis d'innover et d'apporter un feu étranger. Et ils ont été consumés, et Dieu a donné l'ordre à Moïse de dire à Aaron, tu ne porteras pas le deuil pour tes enfants. Et on les a évacués de cadavres. Vous savez, un serviteur de Dieu, il a une responsabilité terrible, c'est pour ça que je voudrais que vous priez un peu pour moi, puis pour d'autres, pour tous ceux que vous savez engagés dans le service. Une responsabilité terrible. Suivons ce que je vous dis, suivons la façon dont je vous parle du Seigneur. Mais vous croyez que mon premier auditeur, vous ne croyez pas que je suis conscient que c'est Dieu, que c'est le Père, et que je suis en train de parler de son Fils, que j'essaye de vous le faire aimer, mais si je vous le présente d'une façon qui n'est pas convenable, je serai responsable vis-à-vis de Dieu. Vous savez, on ne sert pas le Seigneur parce que ça nous chantait ou parce qu'on a raté nos examens à l'heure, alors on va dans une école biblique parce qu'ils nous prennent. Misère à soi. Non. C'est pas ça, hein. Alors quand on n'a pas réussi dans le monde, on s'en va dans un institut biblique ou alors on étudie la théologie parce que ça a raté en médecine. Non. Ce n'est pas ça du tout. On est appelé par le Seigneur. Il nous prend par les cheveux, sinon par la barbe. Et il nous empoigne, le Seigneur. Je t'ai pris derrière les parcs, derrière les brebis. C'est une vocation. Et puis, comme Jérémie, on dit des fois au Seigneur, j'en ai assez. Chaque fois que je parle, je crie. Tu me fais leur parler, tu me fais leur dire des choses qui leur plaisent peut-être. Pas, ce serait tellement plus intéressant de leur passer de la pommade dans le dos. Hein, j'aime bien ça. Hein. Comme on l'a vu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment qu'on leur dise des choses agréables. Ils ont la démangeaison là dans les oreilles. Et puis, ils aiment qu'on leur dise des choses agréables. Alors, quand vous vous servez du bistouri, parce qu'il y a des abcès à crever pour dégager tout cela ou pour débrider cela, eh bien, c'est des fois un petit peu douloureux. Alors, nous lisons plus loin, mais je ne pense pas que vous ayez des difficultés à comprendre cela. On en était à quel verset? Verset 8. Hein? Le Saint-Esprit montrait par là, donc, parce qu'il entrait pour porter du sang, hein, du sang pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, le sacrificateur, puisqu'il devait apporter du sang pour lui-même, ça veut dire qu'il était pécheur lui-même. Hein. Alors, il représentait bien le peuple, mais il devait pour lui-même aussi apporter le sang du sacrifice. Alors, vous voyez tout de suite la supériorité de Jésus sur les sacrificateurs de ce monde, de la lignée d'Aaron. Parce que seuls les fils de Lévi pouvaient être sacrificateurs, mais les fils de Lévi étaient tous des pécheurs, qui devaient d'abord, pour eux-mêmes, apporter le sang.
Alors, verset 8.
Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et ce tabernacle avait été construit par qui ? Par Moïse, qui avait reçu sur la montagne des instructions très précises de faire exactement les choses selon le modèle qu'il avait reçu de Dieu. C'est pas Moïse qui a imaginé construire cela, faire le grand parvis, et au sein du parvis, y mettre d'abord l'autel des holocaustes, ensuite la cuve d'airain, et ensuite de dresser le tabernacle, et qui serait en deux parties, avec le lieu saint où se trouvaient trois choses, le chandelier, à sept branches, la table des pains de proposition, et puis l'autel des parfums, qu'il ne faut pas confondre avec l'autel des sacrifices, qui était dans le parvis, donc séparé du camp, puisqu'il y avait toute une barrière. Mais nous devons examiner chaque chose dans le détail, si vous le voulez vous-même. Mais comme cela nous a été dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais c'est absolument passionnant d'étudier le tabernacle et tout ce symbolisme que figurent ces choses. Alors, verset 9. Hein, c'est une figure, ce tabernacle, hein, dans le désert, pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices. Le temps actuel, c'était le temps où la lettre est écrite, où le temple existait encore, où l'on offrait encore des sacrifices, tandis que maintenant il n'y a plus de temple, alors on n'offre plus de sacrifices, il n'y a plus de souverain sacrificateur en Israël, même dans l'état juif retrouvé, et c'est bien une prophétie qui a été accomplie à la lettre. Pendant tout un temps, Israël serait sans temple, sans sanctuaire, sans éphod, sans sacrifice. Et alors, ces choses représentent donc, sont une figure du temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Il y a eu l'époque de la réformation historique où des catholiques, découvrant les Écritures, ont essayé de demander aux autorités ecclésiastiques de réformer l'Église. Ils n'ont pas voulu sortir de l'Église, mais ils ont supplié le pape, que ce soit Luther ou que ce soit d'autres, d'user de son autorité et de son pouvoir pour faire revenir l'Église à une pureté spirituelle, hein, alors que l'Église s'était complètement mondanisée et corrompue, qu'on y faisait le trafic de quoi ? Des uns. D'urgence, et qu'on disait qu'on pouvait gagner son ciel en payant des messes pour plaire à Dieu, pour apaiser la colère de Dieu. Et vous savez pourquoi on avait trouvé cette histoire des indulgences? Ça, c'est dans les livres catholiques que vous pouvez lire cela. C'est parce que Jules II en particulier avait besoin d'argent, le pape Jules II, pour achever Saint-Pierre, et puis aussi pour financer les croisades. Il a fallu de l'argent pour financer les croisades, qui ne sont pas la gloire de l'Église. Qu'est-ce que c'était les croisades? C'était aller massacrer les infidèles, soi-disant, qui étaient des musulmans. Est-ce que c'était le Seigneur qui voulait ça? Avec une croix sur la poitrine et une épée comme ça? Alors que le Seigneur était mort en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. De sorte que, vous voyez, alors il fallait de l'argent, bien, on a dit, eh bien, si tu payes, eh bien tes péchés sont pardonnés. Alors on pouvait tout faire, on pouvait vivre dans la corruption, mais si on avait de l'argent, on était pardonné. Vous croyez que c'était le vrai pardon, ça? Alors, c'est pour ça qu'il y a eu tant d'incrédules. Les incrédules sont sortis de quoi? De l'Église. Parce que ce que faisait l'Église n'était plus un exemple, et ils ont tout jeté. Et ils n'ont plus cru en Dieu parce que l'Église leur montrait quoi ? Une caricature de Dieu. Et alors, ils ont vomi l'Église, mais ils ont vomi aussi, hélas, Dieu avec. Et c'est ce que vous devez bien comprendre. Et quand nous parlons à des gens qui sont tous d'origine catholique, disons, et qui ont tout abandonné, qui ne veulent plus rien entendre, ils nous disent, on nous a assez maintenus dans la noirceur, dans la superstition et dans tout ce que vous voudrez, nous ne voulons plus rien entendre. Et puis, parce qu'il y avait toujours un élément de vérité quand même dans l'Église, alors ils retrouvent que nous avons un langage où il y a des choses qui correspondent et ils nous mettent tous dans le même paquet. Vous comprenez ? Alors nous sommes très handicapés à cause de cela. Et pour beaucoup, la religion, ben, ça consistait avant à ne pas manger de la viande le vendredi soir. Puis maintenant, vous en mangez ? Pourquoi ? Alors, ce qui était péché avant Vatican II, c'est plus péché après. Vous voyez, tout cela, si vous commencez à lire l'Écriture, pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas que l'Écriture soit dans vos mains ? C'est parce que vous alliez voir que ce n'était pas ce qu'on vous demandait. Que le joug des hommes est beaucoup plus dur que le joug du Seigneur. Vous pouvez manger de tout, mais pas comme des goinfres, mais avec action de grâce, et pas à en prendre une indigestion, mais avec modération. Mais ce n'est pas d'avoir observé ces règlements qui va vous sauver. Et Victor Hugo a fait un poème extraordinaire en disant que si tu donnes de l'argent, ils feront même une messe pour ton chien. Hein? Vous connaissez la sainte boutique. Je ne vais pas vous la réciter. Hein? Non. Parce que ce n'est pas le temps d'entrer dans les détails de la sainte boutique. Mais le Seigneur l'avait déjà dit, ça, hein? Au sujet des Juifs, qu'est-ce que vous avez dans votre tente ? Vous en avez fait une caverne de voleurs. Une maison de trafic. Et c'est extraordinaire de voir tout ce que l'on vend aujourd'hui comme image pieuse, en vous faisant croire que parce que vous avez une médaille bénite et rebénite, eh bien que ça va vous protéger. Qu'est-ce qui va vous protéger ? Votre confiance dans le Seigneur. Votre crainte du Seigneur. C'est pas autre chose. C'est pas d'avoir un objet dans sa poche. Une amulette. C'est quelque chose. Et puis ne prenez pas la Bible non plus comme une allumette. Oui, ça pourrait vous enflammer, finalement. Ne prenez pas la Bible comme une amulette. Hein, parce que voilà, je touche la Bible. Ou bien je baise la Bible. À baiser. Hein. C'est ça. C'est ça que le Seigneur veut. Tu baiser le livre, puis tu vas le suivre. On peut baiser sa femme, puis la tromper. Alors, j'ai un franc-parler, parce que je suis un homme, j'ai les pieds sur la terre, la tête sur les épaules, et je demande au Seigneur qu'il garde mon cœur dans le ciel. Mais nous sommes des réalistes, et on ne va pas nous en faire à croire. Alors, lisons plus loin. Verset 11. Mais Christ est venu. Ah voilà, tout le changement. Hein. Mais Christ est venu. Alors, on respire. Il nous a apporté non pas une religion, il est venu comme un sauveur. Et Thérèse me disait cela l'autre jour, je crois que dans un entretien, c'était cela, non plus une religion, mais là, le sauveur ou la personne du sauveur. Si ce n'est pas Thérèse, c'est quelqu'un d'autre, mais je m'excuse de prononcer un nom. Mais en tout cas, dans ce camp, j'ai vu que beaucoup avaient compris que ce n'est pas une religion qui nous sauve, c'est un sauveur. Et ce sauveur, il est le même pour tous. Il y a combien de Jésus ? Il y en a un. Et alors, si nous aimons Jésus, nous nous aimons les uns les autres, quel que soit le lieu où nous sommes nés. Et nous cherchons à nous aider les uns les autres. Et nous sommes, si nous l'avons reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Alors les enfants d'un même père, qu'est-ce qu'ils sont, des cousins ? Des frères. Eh bien, manifestons-nous cela, même si nous ne sommes pas nés dans la même communauté. Nous sommes des frères. N'attendons pas que ces églises s'unissent. Unissons nos cœurs autour de la personne de Jésus, car il a dit là où deux ou trois, sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. L'église primitive, ils n'avaient pas de temple, il y avait le temple de Jérusalem. Ils se réunissaient dans leur maison, peut-être dans leur sous-sol, mais
voilà, où ils se réunissaient, puis ils lisaient la parole ensemble, ils s'édifiaient. Et beaucoup de prêtres qui sont dans les pays de l'Est arrivent, vraiment, moi je vois, dans toutes ces persécutions, il y a une espèce d'épuration, même eux, quand ils doivent partir, ils commencent à dire à ceux qu'ils ont enseigné, vous savez, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour célébrer la Sainte Cène, hein. Le Seigneur, si vous êtes un croyant, vous pouvez le faire vous-même. Ils sont mis dans une situation, parce que ce sont quand même des hommes sincères, et qui n'avaient peut-être pas vu toute la lumière, toute la vérité, mais qui, par l'épreuve, par ces dépouillements successifs, on arrive à vivre plus près du cœur de Jésus, et dans la pauvreté même de Jésus, et c'est alors qu'ils enrichissent les autres. Comme Jésus lui-même, c'est par sa pauvreté qu'il nous a enrichi. De sorte que si l'amour pour le Seigneur n'amène pas une réformation dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Le jugement de Dieu commence par sa maison. Il y aura des jugements sur l'Église pour épurer cette Église, pour épurer ceux qui appartiennent au Seigneur dans toutes ces communautés. Et le Seigneur, c'est ce qui nous rassure, il connaît ceux qui lui appartiennent dans tous les milieux. Alors, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tandis que quand le juif, l'hébreu, venait avec son sacrifice, il fallait que ce soit une bête sans défaut, ce qui annonçait que le sacrifice devait être le plus parfait possible, il mettait ses mains sur la tête de la victime et il confessait ses péchés. Qui aurait dû mourir puisqu'il avait péché? C'était l'animal ou lui? C'était lui. Mais Dieu lui donnait un substitut dans cet animal. Mais ça enseignait cet homme que par son péché, il aurait mérité la mort, mais que Dieu était miséricordieux et qu'il permettait qu'une bête meure à sa place. Et le sang, c'était le symbole de la vie. Il est dit, le sang, c'est la vie. Alors, on prenait le sang et on le présentait devant Dieu. Mais chaque fois que l'homme avait commis un nouveau péché, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait retourner et recommencer d'apporter une offrande, un nouveau sacrifice. Alors, on n'était jamais rendu à la perfection, jamais dans une tranquillité totale. Il fallait toujours recommencer. Mais voilà Jésus qui vient et qui offre sa propre vie. Et c'est son propre sang qui a été versé et il est le sacrifice qui supprime tous les autres sacrifices. Les sacrifices d'animaux n'étaient que des sacrifices préparatoires. Mais cette idée que le sang est nécessaire pour la rémission des péchés, cette idée, elle était au fond même du cœur des païens, hein, qui en étaient arrivés à rechercher eux aussi une victime qui puisse plaire à la divinité. Et qu'est-ce qu'ils avaient trouvé, eux? Des enfants. En se disant, si on offre un enfant, il n'a pas encore péché. Hein. Et alors, on sacrifiait des enfants. Mais on n'était pas arrivé à cette pensée qu'il fallait le sang du Fils de Dieu. Ce sang d'un agneau sans défaut et sans tache qui était préconnu dès avant la fondation du monde. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souliers sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel, vous pourriez souligner dans cet épître aux Hébreux, chaque fois qu'il est parlé d'éternel, hein, une alliance éternelle, une rédemption éternelle, un esprit éternel. Il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Eh bien, combien plus purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est les œuvres qu'on essaye de faire pour mériter son salut. Donc, vous savez comment Dieu les appelle ? Des œuvres mortes. Alors, ne continuez pas d'accomplir des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est les œuvres que la chair accomplit. Mais la chair, elle est inimitée contre Dieu, elle ne peut pas plaire à Dieu. Alors, il y a un tas d'œuvres qu'on appelle des bonnes œuvres, qui n'ont aucune valeur et qui sont d'aucun prix devant le Seigneur. Si vous voulez être sauvé par les œuvres, eh bien, sachez que vous êtes perdu. Et que l'enfer est pavé de ces gens qui ont fait des bonnes œuvres, pour être vu par les hommes. Parce que c'est ce que Jésus a dénoncé, hypocrite. Toutes tes œuvres, tu les fais pour être vu par les hommes, et tu es un diable. Tu n'aimes pas ton prochain, tu ne visites pas la veuve, tu ne la secours pas, tu es pingre, tu es avare, tu es ceci, tu es cela. Hein. Et puis, tu prétends que tu fais des bonnes œuvres. Regardez le pharisien, c'est Jésus qui dit cela. Deux hommes montèrent au temple, il y en a un qui était pharisien. Et quelle est sa prière ? Seigneur, parce qu'il voit un pauvre type qui est là, un publicain, il dit, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas. Comme celui-là. Je jeûne 3 fois la semaine, tu l'avais entendu comme ça. Je jeûne 3 fois la semaine. Je paye la dîme, etc. Tout ça. Puis le publicain, lui, il se frappait la poitrine. Je ne peux même pas faire des dégâts. Il lui a donné un coup dans les oreilles. Il faudra que je lui demande pardon. Mais lui, il sait aussi que s'il reçoit un coup sur la joue droite, il doit tendre la gauche. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, le Seigneur, d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises, donc les transgressions, elles ne pouvaient être payées que par une vie donnée. Hein. Toutes les transgressions qui avaient été commises sous la première alliance ont été expiées par la mort du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la mort de l'animal qui expiait les transgressions. Dieu donnait cet animal en attendant le seul sacrifice. Et il est dit que Dieu a supporté les péchés qui ont été commis avant le sacrifice de Christ, mais que tous ceux qui ont vécu avant le sacrifice de Christ et qui ont offert des sacrifices en se conformant à la loi divine, eh bien, ont été sauvés par le sang de Christ. Les sacrifices lévitiques annonçaient le plus excellent sacrifice. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, il fallait que donc le Seigneur meure pour qu'il y ait la nouvelle alliance. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est clair, hein? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, la première alliance avec Moïse. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit du sang de veau, de bouc, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre même et sur tout le peuple en disant, c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc, le peuple reconnaissait
que pour que le péché soit ôté, il fallait qu'une vie soit donnée. Le sang, c'est la vie. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur ses tentes dans le désert, et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est là le grand principe. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, donc le tabernacle terrestre était une image des choses qui étaient dans les cieux, il était nécessaire que les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, que les premiers. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Moi que j'aime ça. Un jour j'étais à Jérusalem avec quelques amis, on était à tant de tours après, entre Jérusalem et Bethléem, et puis c'était le jour de l'Ascension, nous avons été complètement dépassés, il y avait là des prêtres catholiques aussi, et le Seigneur nous avait unis d'une façon extraordinaire, et on était devant une table, on était une quarantaine de personnes, et puis tout à coup, eh bien, on a été dépassés, et on a vécu une heure tout à fait dans le ciel, et on l'a communié ensemble. Je ne le fais pas d'habitude. Et personne ne pouvait prévoir une chose pareille. Mais on a eu un avant-goût de ce que c'était une seule table, la table du Seigneur où les vrais rachetés sont là. Et j'avais l'impression vraiment de voir Jésus debout dans le ciel, qui se tenait pour nous devant le ciel, dans le ciel, devant le Père. Il se tenait là pour nous. Et puis nous, sur la terre, on avait à se tenir là pour le monde, hein, pour Jésus. Lui se tient pour nous devant Dieu dans le ciel et nous, nous nous tenons pour lui qui est dans le ciel devant le monde. Et c'était quelque chose de merveilleux que je n'oublierai jamais et tout le monde pleurait, tout le monde s'embrassait. On s'aimait vraiment. Mais ça a fait du bruit. Alors, ça vaut mieux que ça ne soit pas enregistré.